Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Bienvenue dans Alors, c'est pour bientôt, le podcast entièrement dédié à la PMA et au désir de maternité quand ça ne marche pas comme on se l'imaginait. Alors, c'est pour bientôt vous propose un nouvel épisode et donne le micro à une femme ou à un couple qui décide de partager son parcours, ses joies, ses galères, ses questionnements, ses découvertes et qui contribue ainsi à libérer la parole autour de la fertilité. Aujourd'hui, je vous présente une autre expatriée française aux États-Unis, j'ai nommé Pauline. Elle nous parle depuis l'Indiana, mais c'est bel et bien en France, du côté de Metz, que se déroule son histoire. Nous parlons donc aujourd'hui de PMA, mais pour les autres. Pauline a toujours rêvé d'avoir 4 enfants, et après une première grossesse qui a mis 2 ans à arriver, suite à une endométrite et une trompe bouchée, c'est en 2015, alors maman de 3 enfants, qu'elle tombe sur un article dans la presse féminine à propos du don d'ovocytes. En lisant cet article, Pauline découvre tout un monde qu'elle ignorait complètement et comprend qu'il y a un grand besoin en France de donneuses. Ni une ni deux, direction dondovocytes.fr pour identifier le centre le plus proche de chez elle, et la voilà qui se lance, rapidement, dans un parcours de don. Dans cet épisode, je veux mettre en lumière ce parcours de l'ombre, lui aussi, mais côté donneuse, pour comprendre véritablement d'où viennent ces petits lingots d'or qui permettent à certains et certaines d'entre nous de devenir parents. J'espère aussi que cet épisode permettra de susciter d'autres envies de dons, et sinon tout au moins, de vous inspirer. Pauline vit sa vie tournée vers l'autre, et c'est vraiment chouette de l'entendre. Cet épisode, enregistré en plein confinement, est super, même si le son, malheureusement, n'est pas le meilleur. Alors accrochez-vous, car je sais qu'il va vous plaire. Allez, sans plus attendre, place à ma rencontre avec Pauline. Bonne écoute! Bonsoir Pauline, bienvenue sur le podcast. Comment vas-tu et d'où est-ce que tu nous parles ce soir?
Bonsoir Anne-Fleur, alors je suis aux États-Unis, dans l'Indiana, je suis originaire de France.
Et comment ça va?
Aux États-Unis, ben ça va bien, écoute, on est un peu comme tout le monde enfermé en ce moment, mais ça va bien.
Bon, alors on s'est rencontrés nous dans la communauté expatriée française aux États-Unis en ligne un peu sur Instagram, et je te remercie de m'avoir contacté dans le cadre de ce podcast, alors c'est pour bientôt, pour discuter de ton parcours qui est un petit peu différent. Alors tous les parcours sont différents, mais qui est un petit peu différent de par son essence des autres parcours dont on a parlé. Donc on va rentrer un petit peu dans le vif du sujet. Ouais. Avant de parler de tout ça, est-ce que tu peux te présenter un petit peu, me dire, voilà, je sais pas, quel âge tu as, depuis quand tu es aux États-Unis, ce que tu fais dans la vie, à quoi ressemble un peu ta famille?
Donc, j'ai 40 ans cette année. Je suis aux États-Unis depuis un an et demi maintenant. Ma famille se compose de mon mari, moi, et mes 4 enfants de 9 ans, 7 ans, 4 ans et 2 ans.
Ah ouais, donc tu t'ennuies pas. Le confinement, c'est...
Ouais, ça doit être positif. Ça va. Moi, j'ai la chance que la crèche soit encore ouverte pour les 2 petits et mon mari travaillant. Donc, du coup, j'en ai que 2 à gérer toute la journée.
C'est déjà pas mal.
Okay. Oui.
Bon, très bien, très bien. Alors, on va pas parler exactement de PMA aujourd'hui. Est-ce que tu peux me dire de quoi est-ce que nous allons discuter?
Donc, on va parler du don d'ovocytes que j'ai fait. Pour ma part, entre ma 3e et 4e grossesse.
Donc, en tant que donneuse, on est bien d'accord?
En tant que donneuse, exactement, ouais.
D'accord. Donc, toutes tes grossesses se sont passées naturellement?
Alors, toutes mes grossesses se sont passées naturellement. On a eu de grosses difficultés à lancer la première. Ouais, on a attendu 2 ans. On a attendu de tomber sur le bon médecin parce que, alors, je souffrais d'une endométrite. Ça n'a rien à voir avec l'endométriose, je précise.
D'accord, c'est quoi? Tu peux nous dire?
Ouais, j'avais une trompe de bouchée et une endométrite. Alors, bon, la trompe de bouchée, le médecin a réussi à me la déboucher. Mmh. Et l'endométrite, c'est une bactérie.
Ouais.
Donc, on attrape sans forcément s'en rendre compte. On peut être malade, mais on ne l'est pas forcément. Et qui rend le pH vaginal acide et donc tue tous les spermatozoïdes.
Ah ouais, d'accord.
Très compliqué.
Ouais, environnement hostile, quoi.
On est enceinte, voilà.
Ouais.
Une fois que le médecin, enfin, que j'ai eu trouvé le bon médecin et qu'il a trouvé ce que j'avais, J'avais 3 mois de traitement antibiotique et je suis tombée enceinte au bout du premier mois. Donc, comme quoi, changer de médecin, des fois, ça peut aussi aider.
C'est clair. On le dit souvent, hein, non, c'est clair.
Parce qu'effectivement, nous, ça faisait 2 ans qu'on essayait, que les médecins me disaient, oh, vous voulez le mode d'emploi, faut faire le poirier, enfin, ce genre de choses.
Les médecins te disaient des trucs comme ça? J'ai déjà entendu familles pas très bienveillantes.
Mais non. Donc, j'ai dit plus jamais.
Ouais. Ils t'avaient fait, du coup, des examens un peu complémentaires pour voir s'il y avait un souci de fertilité.
Parce que j'avais fait des prises de sang, mais bon, ils m'avaient tout fait faire un peu en dépit du bon sens. Donc l'autre médecin a repris un peu tout ça et en fait juste en regardant mes examens que j'avais déjà fait, même s'ils n'avaient pas été faits au bon moment, m'a dit vous avez ça et ça, j'en suis sûre. Il m'a fait une célioscopie et effectivement quand je suis sortie d'anesthésie, il m'a dit effectivement voilà, c'était bien ça.
Ah ouais.
Donc comme quoi effectivement ça vaut le coup des fois de demander d'autres avis.
Ouais, bien sûr, de suivre son intuition et.
Mais en tout cas voilà.
Donc, qu'est-ce qui a déclenché chez toi, du coup, le fait que tu as su qu'il fallait les demander à quelqu'un d'autre?
Alors, en fait, j'ai une amie qui était suivie par ce médecin-là, qui m'a dit, écoute, c'est quand même bizarre, donne-moi, donc, elle passait par une PMA, justement, m'a dit, écoute-moi, il nous a fait faire tous les tests, il a trouvé ce que c'était, il n'y a pas de souci, donc, donne-moi tes résultats, j'y vais bientôt, je lui montre, et puis, je te dis ce qu'il en est. Donc, le médecin m'a dit de prendre rendez-vous avec lui, il m'a dit, bah, écoutez, voilà, vous inquiétez pas, c'est ça et ça, il n'y aura pas besoin de passer par une PMA. Ce qui m'a rassurée, parce que clairement, moi, j'admire toutes ces femmes qui passent par ce parcours-là. Moi, j'étais en train de me dire, je ne le ferai pas, j'adopterai.
Ouais. Ça te faisait peur?
Je me sentais pas. Je savais qu'il y avait quand même beaucoup d'échecs, il faut pas se leurrer. Et je m'étais dit, j'aurais nerveusement, j'y arriverais pas.
Ouais.
Ça va être trop compliqué. Et puis forcément, on arrivait dans les périodes un peu comme toutes les femmes que tu reçois, hein, où tout le monde tombe enceinte de toi, t'annonce à tour de bras, je suis enceinte, et toi, tu sais que t'essayes, et tu sais que ça marche pas, et forcément, ça devient compliqué. Je m'étais dit, non, j'ai pas le courage de passer par ça.
Du coup, là, si mes calculs sont bons, c'était qu'on était en 2009, 2010, à ce moment-là, ça?
Écoute, on a commencé en 2009, donc ouais, c'est ça, je pense qu'on a dû commencer, début 2010, je pense, puisque mon aîné est de février 2011, donc oui, voilà, tu vois, c'est à peu près ça.
Ouais, ok. Bon, super, d'accord, donc du coup, tu prends les antibios, t'y crois?
Je crois, enfin,
ça y est, on est enfin arrivé de quoi il s'agit, effectivement. Problème résolu en quelques jours, presque.
Presque, non, c'est vraiment ça, ouais, c'est presque ça. Et donc, voilà, donc je tombe enceinte de mon premier assez rapidement, une fois qu'on a eu trouvé ce qui n'allait pas.
Ok, super. Grossesse, tout va bien? Bébé, tout va bien?
Ah oui, non, ouais, tout va bien. Tout va bien.
Génial, très bien.
Tout va bien pour le deuxième, tout va bien pour le troisième. Alors moi j'avais toujours dit que je voulais 4 enfants, mon mari était pas forcément très très chaud pour le 4e. Et du coup, je suis tombée, je pense un peu par hasard, sur un article sur le don d'ovocytes, plus ou moins à cette période-là. Mon dernier était pas très très vieux, puisque je l'ai fait entre les deux, donc je dirais qu'il devait avoir 6 mois à peu près. Et je me dis, bah tiens, pourquoi pas, je donnais déjà mon sang, je donnais déjà mon plasma, j'ai ma carte de donneur d'organes, donc je me suis dit, bah... Après tout, si je peux aider.
Qu'est-ce qui a vraiment fait écho en toi, en fait? Donc, qu'est-ce qui racontait vraiment cet article? Tu t'en souviens? C'est dans quoi, d'ailleurs? Dans quel média?
Je pense qu'il devait y avoir un... Je pense que c'était... ça devait être un témoignage de quelqu'un qui avait pu avoir un don d'ovocyte et avoir un bébé au bout. Et donc, quelque part, remercier ces personnes qui pouvaient donner. Et forcément, après, à la fin de l'article, il y avait aussi le fait... Malheureusement, il n'y avait pas beaucoup de dons et que clairement, ça manquait, quoi. Enfin, par rapport, je pense, au nombre de demandes, il n'y en avait clairement pas assez.
Tu connaissais des gens qui étaient passés par là, toi?
Pas du tout. Et en fait, je me suis renseignée. Donc, à cette époque-là, j'habitais vers Metz. Et en fait, il y avait un centre à Metz. Donc, je me suis dit, c'est le moment jamais de le faire. Bon, déjà, j'avais 37 ans. Donc, sachant que la limite, c'est 37 ans, je me suis dit, si je me lance pas maintenant. Si, alors après, je pense que c'est une question de vieillissement des ovocytes, hein, clairement. Est-ce que ça peut comporter? Enfin, alors, je sais pas. Par contre, moi, je m'étais renseignée, c'est-à-dire si je pouvais redonner après. Elles m'ont dit, en fait, on sait pas parce qu'on nous a jamais posé la question.
Ça va, je t'en dis long, quand même.
Il y a peu de femmes qui donnent plusieurs fois, quoi. Donc, voilà, Clairement, je l'aurais su avant. Je l'aurais peut-être fait avant pour pouvoir le faire plusieurs fois.
Et alors, quel est le processus? Donc, toi, tu contactes un centre, du coup, de PMA, c'est ça? À Metz?
Ouais, alors, c'est dans des centres de PMA, mais mm-hmm. tous les centres de PMA n'ont pas les prélèvements pour des dons d'ovocytes.
D'accord.
Il faut vraiment, et du coup, sur le site de, ça s'appelle dondovocytes.fr. D'accord. Et là, il y a la carte. Il y a la carte avec tous les sites de dons. Donc, on prend un premier rendez-vous, il nous donne un papier à remplir. Quand on se sent prêt, ben, on y retourne, en sachant que ce papier-là, il faut qu'il soit aussi signé par le conjoint. Il faut que le conjoint donne son accord aussi.
Ah ouais, ok. Tu es célibataire, tu peux pas le faire ?
Si, 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 tu peux le faire. Mais par contre, si tu es en couple, il faut que le conjoint donne son accord.
D'accord, ok. Ouais.
Donner sans son accord.
Et lors de ce premier rendez-vous, on fait quoi? Donc, on te répond à plein de questions. J'imagine que tu as d'un point
voilà,
de
vue. Voilà, on explique. Ou... Alors, pas encore.
D'accord.
D'abord, tu passes effectivement tout. Enfin, pas d'entretien, mais voilà, il t'explique. Il te pose quand même 2-3 questions, voir si tu es prête à le faire. Il t'expose un petit peu les risques aussi qu'il peut y avoir.
Quels sont les risques d'ailleurs?
Alors, les risques, bah, c'est surtout le fait d'être trop stimulé et donc de se retrouver avec des stimulations ovariennes trop fortes. Donc, c'est clairement surtout ça. Après, alors, je te cache pas que je suis retournée faire un petit tour sur le site, mais moi, je me souviens que pendant les 2 ou 3 entretiens que j'ai eus, à chaque fois, ils m'ont bien demandé, ils m'ont bien précisé plutôt qu'il y avait des risques que je ne puisse pas retomber enceinte derrière.
Ah ouais.
Parce que, bah, parce que je pense qu'on est toutes avec un certain nombre de d'ovocytes dès la naissance et que, bah, forcément, les données, ça veut dire que tu tapes dans ton capital et que, voilà. Alors, sur le site, là, c'est bien précisé que normalement, ça ne t'empêche pas, mais voilà, ils précisent quand même que c'est possible. Donc, forcément, ça te demande un peu un travail sur toi aussi, parce que moi, j'en voulais un quatrième. Je me dis, un mois après, on est 3 qui sont en très bonne santé. Si je peux aider à quelqu'un, si je peux aider quelqu'un, en avoir un autre, autant le faire. Mm-hmm. Remplis déjà tout ça. Ensuite, tu as un premier rendez-vous avec des prises de sang. Enfin, je pense que là, pour vous, c'est à peu près la même chose que tout part. Sauf que tu as aussi un check-up génétique. Il te pose tout un tas de questions sur ton historique familial au niveau des maladies cardiaques, des cancers, enfin, tout ce qui peut être plus ou moins héréditaire, on va dire. Et il te faut un karyotype. Enfin, c'est vrai que tu n'as pas de maladie, puisse être porteuse de maladie que tu n'as pas, mais... Mm-hmm.
Que tu pourrais transmettre.
Que tu peux retransmettre.
D'accord.
Et une fois que tu as fait ça, là, tu as un entretien psychologique qui peut être assez déstabilisant parce qu'effectivement, elle met le doigt sur plein de choses parce que il faut savoir que le don est anonyme, que l'enfant n'aura jamais accès aux infos. Et moi, ce qui me gênait en fait dans cette partie-là, c'était, admettons que demain, je ne le souhaite pas, mais je me découvre effectivement que j'ai développé une maladie qui puisse être transmise à mes enfants. J'aurais pas moyen de pouvoir prévenir
cet enfant ou ses enfants potentiellement.
Ou ses enfants, je ne sais pas. puisse être au courant. Donc ça me dérangeait un petit peu. Après, voilà, donc dans l'entretien psychologique, il te précise bien que tu peux ne pas en avoir d'autres enfants derrière, donc si tu en veux d'autres, voilà. Il te propose aussi, alors moi, je ne l'ai pas fait parce que je n'en voyais pas l'intérêt, mais quand tu donnes comme ça, il te propose d'en garder pour toi, si tu le souhaites.
Yeah, d'accord.
Je m'étais dit, comme on n'était pas forcément encore en se disant, on va faire le quatrième, et j'ai dit non parce que... Bon, parce que je me suis dit, voilà, s'il n'y en a pas d'autres, il n'y en a pas d'autres, c'est que c'était écrit comme ça. Et voilà, j'avais pas envie de... Ils ne seront pas donnés à quelqu'un d'autre, alors que moi, j'ai déjà la chance d'avoir des enfants et que... Ouais. Et que voilà, c'est tout, c'était simplement comme ça. Voilà, donc dans l'entretien psychologique, ils te reprécisent bien que tu ne sauras pas. Donc c'est vraiment complètement, j'ai envie de dire, aveugle pour nous, parce que, pour nous donneuses en tout cas, on ne sait pas combien ils prélèvent de ovocytes, on ne sait pas combien vont être réimplantés. Enfin, on ne sait rien du tout en fait.
Ouais.
Juste le protocole et après on ne sait pas du tout. Tout ce qu'on sait, c'est que les ovocytes ne restent pas dans le centre de don où tu as fait le don.
Ah ouais, ils peuvent être réattribués.
Alors ils sont réattribués. Enfin en fait ils sont dispatchés dans d'autres centres. Alors l'explication qu'on
manque au niveau du pays ou des régions.
Des régions de la France en fait, hein, ça va être dispatché pour éviter. Alors je pense que la raison première, en tout cas celle qu'on m'a donnée, c'était que c'était pour éviter que potentiellement mes enfants rencontrent.
Éviter la consanguinité.
Voilà. Donc ils essayent de brasser comme ça.
Ah ouais.
Après, quand tu vas faire le premier entretien, oui, quand tu les rencontres la première fois, ils te demandent aussi si tu es là pour, alors je mets vraiment entre guillemets, sponsoriser quelqu'un.
Ah oui, c'est vrai. Effectivement, parce que
si tu connais quelqu'un,
ouais, tu les fais remonter dans la liste d'attente des dons, c'est ça?
C'est ça, exactement. Ouais. Par contre, ils auront tes ovocytes. Hein. Clairement, ils n'auront pas les tiens, c'est même certain. Ouais. Bon, il remonte dans la liste. Là, je connaissais personne à cette époque-là. C'est pareil, je l'aurais su à l'avance. J'aurais peut-être envoyé des messages à mes amis simplement pour savoir s'ils connaissaient, si elles connaissaient quelqu'un dans ce processus-là pour pouvoir aider encore plus, plus précisément. Donc voilà. Donc ça, c'est à savoir aussi, c'est qu'effectivement, si on connaît quelqu'un et qu'on a l'envie de donner, on peut les aider aussi comme ça.
Et est-ce que tu dois être maman toi-même pour pouvoir donner tes ovocytes?
Non. Non, non. On peut donner entre 18 et 37 ans.
D'accord, et tu n'as pas besoin d'avoir déjà eu une grossesse. Ah, tu vois, je pensais pas.
Non, tu peux donner comme ça. Alors forcément, plus t'es jeune, plus ils te proposent de congeler tes ovocytes, justement, au cas où, à un moment donné, en avoir raison X, Y ou Z. Mais non, il n'y a pas besoin d'avoir eu des enfants.
D'accord. Le timing, je suis intéressée parce que tu vois, on parle souvent des parcours de PMA, à dire du moment où la patiente ou le couple a identifié un potentiel problème jusqu'à la prise en charge, enfin le début d'un potentiel traitement, il peut se passer des années. Et du coup, je suis un peu curieuse et on parle justement aussi de la lenteur d'attribution des dons de vos sites, notamment parce qu'il y en a, il y en a pas assez. C'est quoi un peu le timing, donc toi, à partir du moment où tu t'es décidé jusqu'au début de cette prise en charge, donc psychologique, médicale?
J'ai dû me décider vers septembre 2016, c'est ça, puisque le dernier avait 6 mois à peu près. Le temps de tout faire, je pense que le prélèvement, il me semble que c'est fait au mois de février. Je vais dire des bêtises, je me souviens plus maintenant. Non, je crois que c'était aux alentours de début d'année 2017.
Ah oui, donc c'est relativement rapide quand même.
Ouais. Ils font la stimulation. Enfin, c'est le temps d'avoir, en fait, ce qui a été très long, c'est le temps d'avoir le résultat du karyotype.
D'accord.
Après un peu de temps. Mmh. Et après, voilà, il te stimule quinzaine de jours, j'ai envie de dire. Et moi, je crois que ça a été moins que ça parce que justement, j'étais limite en surstimulation.
Ouais, t'as bien réagi.
Ouais, il faut y aller. Je crois que je devais y aller tous les 2 ou 3 jours, vérifier que bah, justement, il n'y avait pas surstimulation. Et puis pour décider quand faire la dernière piqûre pour déclencher et faire le prélèvement derrière.
Et comment se passe le prélèvement, du coup? C'est sous anesthésie
générale ou anesthésie locale? Moi, j'ai demandé juste une anesthésie locale. Mais il me semble qu'on peut faire les deux. C'est pareil. Y a pas de... Je ne suis pas passée par ce cycle-là pour avoir mes enfants. Mais j'avais l'impression d'être à l'usine. On s'est retrouvés à 3 en salle avant à rentrer pour le prélèvement. Enfin, j'avais l'impression que c'était vraiment l'usine. Je pense que les autres étaient là pour des prélèvements pour elles. Hein, en tout cas, celle avec qui j'ai discuté. Mais ouais, ça faisait bizarre. C'était vraiment un peu à la chaîne, je peux dire. Mais voilà, après, le prélèvement en soi, ça a dû prendre entre 10 et 20 minutes maximum.
Ouais, c'est rapide. Ils ont réussi à récupérer combien à leur ovocyte?
Alors, on ne sait pas. Je ne sais pas du tout parce que du coup, ils me le disent pas. Mais a priori, il y en avait quand même pas mal parce qu'elle a dû utiliser deux seringues prélevé. Elle m'a dit qu'il y avait quand même de quoi faire. Donc,
L'anonymat va jusqu'au point où tu ne sais pas ce que tu as donné.
Je ne sais pas du tout combien ils en ont prélevé. Alors quand j'en ai parlé, parce qu'entre-temps, j'en ai parlé à mon gynéco après, il m'a dit, oh, si vous savez, je connais la directrice, je peux les appeler, je saurais. J'ai dit non, ça reste comme ça, mais... Voilà, non, c'est complètement, enfin, clairement, voilà, c'est vraiment un don de sa personne et on ne sait rien.
Ça, c'est dingue.
On ne sait rien du tout.
Et alors, est-ce que tu bossais, toi, à cette époque-là?
Non.
D'accord.
Non, je ne travaillais pas, mais pareil, par contre, donc, tout est pris en charge à 100% par la Sécu.
D'accord.
Si on a besoin d'être arrêté, il n'y a pas de souci non plus.
D'accord, c'est ça que j'allais te demander, si ça, c'est un peu comme quand tu es en parcours PMA, où tu as ce droit finalement au traitement de PMA, et du coup tu peux sortir du travail comme...
Là, c'est pareil.
D'accord. Ouais. Et alors, tu en as parlé à ton entourage, donc j'imagine en tout premier lieu à ton mari. Qu'est-ce qu'il en a pensé de ça, ton mari? Lors de la lecture de l'article, d'abord, j'aimerais bien savoir.
Je crois pas que je lui ai montré l'article, en fait. Je lui ai dit, écoute, j'ai lu ça, voilà, je me dis pourquoi pas. Alors après, il sait, hein, que je suis beaucoup dans le don, dans dans l'envie d'aider les autres, enfin voilà. Et quand je lui ai demandé du coup de signer le papier, parce que je lui ai dit je ne peux pas le faire sans ton accord, il m'a dit mais de quel droit il demande à nous aussi. Ouais. Ça l'a impliqué en fait. Pourquoi il nous demande à nous aussi que tu aies le droit de une partie de toi, quoi, finalement, c'est ça.
C'est vrai que c'est dingue, hein, parce qu'il serait fécondé, ouais. Je dis pas, il y a son matériel génétique aussi, mais c'est vraiment, je veux dire, c'est du don d'organes, en fait,
C'est ça, c'est exactement pareil.
C'est comme si t'avais un tuteur, quoi.
Voilà, et surtout qu'eux n'assistent pas aux entretiens, enfin, si encore ouais. Il avait droit pendant les entretiens, enfin, voilà. Mais là, c'était même pas le cas, donc il m'a dit, j'ai aucun droit de te refuser ça, enfin. Ce serait ridicule.
Enfin, il n'était pas inquiet pour toi, ton mari?
Non, alors on est d'un naturel tout positif. Alors ouais. Là où j'étais inquiète, c'était sur les piqûres. Je m'étais dit, c'est lui qui me les fera. Et puis finalement, quand j'ai vu le matériel que c'était, c'est-à-dire des stylos, je sais que c'est pas forcément pareil pour tout le monde, mais moi, c'était juste des stylos, comme les stylos à insuline, en fait. Et mon mari étant diabétique, je voyais comment il faisait un peu tout le temps, j'ai vite fait de le faire moi-même, en fait, sans appréhension. Donc, ça a été, voilà. Après, il a fallu qu'il soit là, forcément, quand je suis rentrée d'hôpital, j'ai eu un peu mal au ventre pendant la journée, voire le lendemain. Donc, il a pris un peu le relais avec les enfants aussi, mais dans l'ensemble, voilà, c'était pas, pour lui, il m'a dit, voilà, c'est un super bel acte que tu fais.
Fier de toi, quoi.
Ouais, plutôt, ouais.
Ouais, il a raison, hein, bien sûr, mais je savoir un peu comment ça s'est passé. Et si je peux me permettre, comment ça s'est passé ton retour, du coup, après la ponction? Parce que c'est quand même, et le début d'une aventure pour tes ovocytes et la fin d'une aventure pour toi. Et puis, c'est vachement émotionnel. Enfin, c'est...
Plus dans l'émotion au moment des entretiens.
Ah ouais.
En fait, l'entretien psychologique, où là, quand même, ça m'a fait réfléchir. Je me suis dit, est-ce que tu te sens prêt? Dire que, mine de rien, c'est un peu comme si il y avait des mini-moi quelque part, quoi.
Ben ouais, voilà, bien sûr. C'est
un peu, ça fait un peu bizarre. Et par contre, du moment où j'ai commencé le traitement, clairement, je me suis dit, c'est pour aider quelqu'un, c'est plus à moi, quoi, en clair. Enfin, je me souviens pas d'avoir été atteinte par la perte d'une partie de moi, si tu veux. Mm-hmm. Je me suis dit c'est fait, je suis assez fière. J'ai pas pensé. Après j'y pensais plus effectivement. Du moment où ça a été prélevé, je me suis dit c'est tout, c'est parti. Finalement tu vois pas. Enfin c'est pas comme donner un bébé, c'est pas comme. Je l'ai pas porté. Quoi. C'est quand même différent. Donc.
Bien sûr.
Donc j'ai pas été. Je te dis j'ai eu des douleurs parce que.
Oui. Parce que la ponction quoi.
Pour peau. Ouais. Et j'avoue qu'elles sont pas forcément douces non plus quand elles te font prélèvement. Enfin, en tout cas, moi, elles n'étaient pas très douces.
Ouais.
Mais après, non, voilà, c'était passé. Et puis on est passé à autre chose. Et puis c'est vrai que, moi, je suis rentrée, j'avais mes trois bouts de chou à la maison. Et je me suis dit, j'ai peut-être donné la chance à quelqu'un, voire même à plusieurs, de pouvoir avoir ça, quoi. Rentrer chez soi avec un bébé.
Une famille.
Et en profiter.
Ouais. C'est un sacrément joli cadeau, hein.
Donc j'aime bien me dire que. Alors j'espère que ça a marché, hein, parce que. Enfin, tu vois, là, j'ai pris les chiffres sur le site, je vais te les donner parce que je trouve ça assez assez parlant. En 2017, il y avait 756 femmes qui ont donné leurs ovocytes. Il y a eu 1069 ovocytes qui ont été donnés. Il y a eu que 329 naissances.
Ah, donc à peu près une sur deux. On a une idée, t'as le chiffre de combien de femmes ou de couples ont besoin justement de dons d'ovocytes?
Je sais pas du tout.
D'accord.
Ça je
tu sais que la dent est très longue parce que justement il y a beaucoup de demandes et puis c'est pas des traitements super super fun, quoi. C'est pas fait. Enfin, d'abord il y a peu de gens qui sont au courant de la possibilité de faire ses dons, et puis les traitements sont quand même pas hyper légers, donc
non, c'est ça reste des hormones, voilà. C'est effectivement c'est un cheminement à faire aussi pour soi, en se disant je vais quand même injecter des produits qui sont pas non plus faut pas se lever, c'est pas neutre non plus.
Bien sûr.
Et je pense qu'après il y a aussi cet aspect, je pense qu'il y a l'aspect les gens ne sont pas au courant, clairement, de comment ça se passe, même ne serait-ce qu'on peut le faire. Enfin,
ouais, c'est ça.
Parce qu'on en fait ça. Et après, je pense qu'il y a quand même, mine de rien, enfin, tu vois, pour moi, l'avoir fait, cet aspect psychologique de se dire, je ne saurai jamais, en fait, si effectivement ça a marché ou pas, si on ne pourra pas se dire, ben, un jour, l'enfant sera à même de connaître ce... Alors, je pense que la plupart des parents le disent, hein. Mais voilà, sur le site, ils précisent bien que, de toute façon, les enfants sont des enfants de parents physiques, enfin, de la maman qui a donné naissance et que, clairement, en tant que donneur, on n'a pas place dans la vie de cet enfant, si ce n'est d'avoir permis qu'il soit là. Mais voilà, ça reste réellement vraiment quelque chose de complètement anonyme. Et tu vois, pour comparer, parce que je me suis renseignée du coup, ici aux États-Unis, ici, c'est pas du tout le cas. Déjà, les femmes sont payées pour donner leurs ovocytes, ce qui n'est pas le cas en France. Et les enfants pourront avoir accès après à leur dossier pour savoir qui était la donneuse.
Ah ouais? Ils peuvent ou c'est-à-dire que c'est une possibilité, mais la donneuse peut aussi le faire de manière complètement anonyme si elle le veut.
Ouais, alors je crois qu'en fait c'est les parents qui décident au départ. D'accord. Les parents qui décident au départ s'ils veulent que le dossier puisse être ouvert ou pas.
D'accord.
Je m'étais renseignée rapidement, mais voilà, mais c'est du coup c'est pas du tout la même chose. Enfin.
Et du coup les dons d'ovocytes sont peut-être aussi plus jeunes.
La limite d'âge est plus basse aussi pour la. Ah ouais. Je crois que le dernier. On peut être fait à 35 ans ou quelque chose comme ça. Mais voilà, mais je ne regrette absolument pas de l'avoir fait et j'ai pu retomber enceinte derrière.
Génial. Il y a combien de temps après alors?
6 mois après à peu près.
Ah oui, donc ouais, c'était quand même.
Oui, non, je pense que je n'ai pas de soucis.
Une
fois qu'on a trouvé le problème, je n'ai plus de soucis.
Ouais. Ben, c'est génial. Alors,
voilà, et ça, j'aurais pu redonner, je l'aurais fait.
C'est vrai, ouais. C'est vraiment impressionnant.
Vous savez qu'on est parti, la petite dernière avait 6 mois, donc ça n'a pas pu se faire, mais je pense que si j'avais pu, j'aurais refait, ouais.
Génial, mais non, bravo, c'est un superbe don. Je voulais tout à l'heure, on a parlé du soutien de ton mari dans tout ce processus, qui a donc été là et qui est super fier de toi, il a bien raison. T'en as parlé autrement dans ton entourage, ta famille, tes amis, un petit peu?
J'en ai parlé, je pense que... Après, tout le monde était au courant puisque je l'ai même posté. Je suis postée en salle de pseudo réveil en disant le don de vos sites est fait. Et donc, effectivement, je pense que les gens ont plutôt bien réagi. Enfin, après, j'en avais déjà parlé. Hein, voilà. Et je me cache. De toute façon, je suis dans le don et que dès que je peux, ce que je peux faire, je le fais. Mm-hmm. Je pense que les gens me connaissent comme ça et donc voilà. Donc après, que ce soit mes parents, mes beaux-parents et tout. Bon, voilà, ils sont un peu en disant, c'est ton corps, à la limite, tu en fais ce que tu veux, mais c'était, je pense. Après, voilà, ça fait aussi partie de ces générations qui n'ont pas forcément connu toutes ces problématiques PMA, même si c'était existant, hein, mais on en parlait peut-être moins aussi.
Bien sûr.
Et voilà, et après, dans mon entourage, finalement, ça a permis aussi d'ouvrir un peu, je suis pas passée par la PMA, mais du coup, ça me permet d'en discuter aussi plus ouvertement avec un peu tout le monde, être sur un. Effectivement, il y a beaucoup de personnes qui ont des difficultés, qui n'en parlent pas forcément. Et voilà, peu de temps après, j'ai rencontré une amie. Elle m'a dit, ma sœur, elle a du mal. Je dis, c'est bête, tu vois, tu m'aurais dit avant, j'aurais pu aller faire le don en son nom et elle aurait été sur la liste. Et voilà, quoi. Effectivement, c'est des choses dont on n'a pas forcément envie de parler. Ouais. Mais voilà, quelque part, j'ai presque regretté de ne pas en avoir parlé plus en amont pour pouvoir justement avoir des retours d'amis ou même d'amis ou de famille d'amis, enfin peu importe, j'aurais pu aider en les faisant remonter un petit peu sur la liste. Quoi.
Qu'est-ce que tu penses du don à l'étranger? Il y a pas mal de couples qui se tournent notamment vers l'Espagne, vers la Belgique aussi, par exemple, en France, pour avoir accès à des dons un petit peu plus rapides.
Je trouve ça dommage qu'on soit obligé d'aller à l'étranger alors qu'on pourrait avoir tout ce qu'il faut en France, juste si, je pense, la communication était un petit peu mieux faite. Et après, par contre, je comprends tout à fait qu'on veuille aller ailleurs. On cherche une solution pour que ce soit plus rapide. Pour ces femmes-là, que ce soit financièrement, psychologiquement, ça doit être très 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 compliqué. Enfin, parce que forcément, c'est pas anodin de partir en Espagne, même en Belgique, pour avoir droit à tout ça. Et puis toujours avec cette épée de Damoclès de se dire peut-être que ça ne marchera pas. Parce que, enfin, clairement, voilà, 756 donneuses, c'est quand même pas grand-chose, quoi.
Non, c'est clair, c'est que dalle.
Suffisamment en France pour qu'il y en ait potentiellement plus que ça qui donne. Mmh. Alors après, il y a des gens qui vont être complètement fermés à ça, hein, mais je pense que si on en parlait plus, un peu comme le don d'organes, quoi, finalement, ouais. Enfin, on essaye de faire en sorte que les gens préviennent avant, que la famille soit au courant, qu'ils veuillent donner ou pas, enfin voilà. Je pense que clairement, c'est... Alors, je dis pas qu'on arriverait à avoir des milliers de donneuses, hein, mais je pense qu'on arriverait à augmenter le chiffre. Enfin, j'espère, en tout cas. Mmh. Suffisamment de gens prêts à donner. Nous, on n'a pas, quand on va donner comme ça, oui, on fait le traitement hormonal, mais on n'a pas ce stress de se dire, ah, ça va pas marcher, on y va vraiment. Oui, ok, on a le traitement hormonal, mais ça a rien à voir avec le traitement hormonal que les femmes qui font les EMA ont, mmh. avec pour ce stress de se dire et ça va pas marcher, il va falloir recommencer
et la répétition, voilà, quoi, bien sûr. Ouais, bien sûr,
c'est ça. Et moi, c'était clairement là-dedans que je ne voulais pas rentrer si jamais on n'avait pas réussi à avoir les
enfants.
C'est
ça qui te faisait peur.
J'aurais pas, ouais, je pense que j'aurais du mal à le supporter.
Ouais, c'est clair que c'est. Après,
je suis allée donner, oui, j'ai fait le traitement, mais c'est rien, quoi. Enfin, franchement, par rapport à ce que ça peut apporter, je trouve que c'est pas grand-chose, quoi.
Mais non. C'est chouette. Tu dis que t'es beaucoup dans le don et que t'as envie d'aider les autres. T'as fait quoi d'autre, du coup, comme don? Ça m'intrigue.
J'ai fait pendant longtemps le don de sang. J'y allais très régulièrement. Du don de plasma. J'aurais bien fait du don de plaquettes, mais ça nécessitait d'aller sur Lyon. Et là, forcément, ça demandait une heure et demie de trajet aller et une heure et demie de trajet retour. C'était un petit peu plus compliqué à mettre en place. Je pense que j'ai ma carte de donneur d'organes depuis que j'ai 15 ans. Et j'en discute beaucoup. Enfin, voilà... Mes parents sont au courant, mon mari est au courant que voilà, si un jour il m'arrive quelque chose, il ne se pose pas de question. C'est oui. Et, ouais. Et voilà, il n'y a pas. Enfin, je ne vois pas pourquoi je les emmènerais avec moi alors que ça peut aider quelqu'un. Et je suis inscrite sur le registre. Alors, forcément, maintenant que je vais aux États-Unis, ça ne sert plus forcément trop, mais sur le registre d'odeur de moelle. Donc voilà, je fais ce que je peux.
Bah, disons, ça va. Impressionnant. T'en as fait des dons aux États-Unis, des dons de ce genre?
Non, pas encore. Alors, j'avais dû arrêter les dons de sang après je ne sais plus quelle grossesse parce que j'avais développé des anticorps qui disaient que je ne pouvais plus donner.
Okay.
Alors, on ne me demande pas quoi, comment, mais en tout cas, ils m'ont dit c'est fini. Ce qui m'a un peu attristée parce que je savais que sang partait pour les unités pédiatriques. Parce qu'un jour, un médecin m'avait dit, vous avez tous les marqueurs qu'il faut qu'on peut donner aux enfants.
Ah. Ah, ça fait du bien, ça, de savoir qu'on peut aider là-dessus.
Ouais, carrément. J'étais assez fière, du coup, d'aller donner mon sang, en disant, je sais où ça, enfin, plus ou moins où ça va, mm-hmm. et ça va aider. Donc, tout de suite, c'est sympa. Mm-hmm. Et voilà, c'est vrai que depuis que je suis ici, j'ai pas réessayé. Alors là, en ce moment, je vais, même si je sais qu'ils en ont pas, j'ai pas très envie de m'aventurer dehors.
Ouais, bien sûr.
Mais je pense que, enfin, tu vois, là, ça fait plusieurs fois que je regarde, justement, des messages qui passent, don de sang à tel endroit.
Alors, le don de sang aux États-Unis, si tu as vécu plus de 5 ans dans les années 90 en France, ce qui est certainement ton cas, ils sont un peu en pleine psychose de la vache folle, toujours Creutzfeldt-Jacob. C'est pareil pour le don de lait aussi, j'avais essayé moi d'en donner et on m'avait refusé. Mais avec le coronavirus, ils sont en train de voir pour enlever cette interdiction pour le sang.
Ouais. Okay. Bon. Donc voilà, donc ça, ouais, ça me retravaille, on peut dire.
Bah, disons, c'est impressionnant. Est-ce que tu aurais un conseil à donner à une femme qui se pose la question, du coup, de se dire, l'histoire de Pauline m'a touchée, moi aussi j'aimerais bien pouvoir, aider des femmes qui passent par là?
Eh ben, qu'il faut pas avoir peur. Moi, j'avoue que je pense que j'ai été bien encadrée aussi par l'équipe qui m'a suivie, que forcément, il faut faire un petit travail sur soi, savoir si on est prête à le faire, par rapport à tout ce que je te disais, de se dire on va donner notre patrimoine génétique et on ne saura jamais. Donc ça peut être un travail un peu compliqué à faire, mais voilà, en soi, c'est pas pour moi, en tout cas, ça n'a pas été une procédure compliquée à faire. Je te dis, j'ai été bien suivie, donc on n'a pas eu de surstimulation ovarienne, j'ai pas eu de soucis de ce côté-là. Donc voilà, moi j'ai juste envie de dire, dites-vous que c'est pour aider quelqu'un et que vous ferez une, voire même plusieurs heureuses. Enfin, peu d'ailleurs, parce que la plupart, on ne fait pas des enfants tout seuls. Ouais. Et que je trouve que c'est une belle aventure. Enfin, moi, je suis assez fière de me dire, voilà, je l'ai fait. Et, j'ai qu'une fille, mais j'espère pouvoir lui transmettre ça aussi. de se dire, ben voilà, je suis en âge de le faire, je lui expliquerai pourquoi j'ai fait cette démarche-là aussi, de vouloir aider les autres, et j'espère que ben, ça fera tilt et que peut-être elle voudra le faire aussi. Je parle beaucoup autour de moi, alors pour l'instant, les gens sont admiratifs, je n'ai pas réussi à faire en sorte que d'autres donnent, mais voilà, j'essaie d'en parler au maximum.
Il y a peut-être quand même là, en écoutant ton histoire.
Bah écoute, j'espère qu'on va réussir à augmenter un petit peu ce chiffre de donneuses et de naissances du coup.
Ouais, bien sûr. Cool.
Mais voilà, la procédure, oui, c'est des hormones, oui, c'est des piqûres à faire régulières, mais le traitement, c'est 15 jours, quoi. Donc c'est pas non plus.
Ouais.
Moi, je te dis, j'ai même fait que 10 jours. Voilà, c'est pas.
C'est une fois, c'est pas tous les mois.
C'est pas invasif. Donc voilà, si on est dans cette envie de donner, de vouloir aider les autres, ou même si on connaît quelqu'un qui aurait besoin d'aide, on se dit, bah tiens, peut-être que je peux faire quelque chose. Ben, je pense qu'il faut pas hésiter, quoi. C'est pas si dur que ça. Voilà. C'est pas, j'ai presque envie de dire, c'est pas comme aller se dire, on va donner un rein, ou effectivement, là, c'est vraiment, ça veut dire qu'on va falloir apprendre à vivre sans cette partie-là. Mm-hmm. Bon, bah là, c'est une partie qui se régénère, qui revient régulièrement, et puis mais qui peut malgré tout aider. J'ai envie de dire foncez, allez prendre rendez-vous, ne serait-ce que faire un entretien et voir si vous êtes prête à le faire ou pas.
C'est ça, poussez la porte et puis quand
exactement.
Le PMA rouvriront.
et puis c'est dans le centre de PMA, donc quand on va faire ces entretiens-là, on se rend compte tous ces gens qui n'arrivent pas à avoir d'enfants, qui... Et moi franchement, quand j'y suis, les deux ou trois fois où j'y suis allée, j'ai vraiment attendu en salle d'attente, on sent ce stress, cette tension qui est un petit peu
palpable.
Ça, ouais, c'est assez dur, quoi. Et c'est d'autant plus dur à vivre quand tu sais que toi t'as eu des enfants et voilà, donc ça m'a encore plus confortée dans mon envie de dire, dans mon envie de donner, quoi, tout simplement, dire les feux. C'est aussi pour ces gens-là que je le fais.
Un grand bravo au nom des femmes aussi qui... Enfin, je suis personne pour dire au nom de ces femmes, mais en tout cas au nom de la communauté, je peux te dire aussi un grand merci. Parce que c'est grâce à des dons comme ce que tu as fait que voilà, il y a des familles qui naissent et qu'il y a des parents hyper heureux et des rêves qui se réalisent. Donc bravo et merci. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite, Pauline ?
Non, bah écoute, de continuer à pouvoir donner et à pouvoir aider comme je le fais. Alors maintenant, ce ne sera plus les ovocytes, ça sera d'une autre manière. Et puis d'essayer d'inculquer ça à mes enfants, justement.
Et bah écoute, c'est une belle leçon et je te souhaite très sincèrement. Écoute, Pauline, je te dis encore un immense merci d'avoir pris le temps de me raconter ton histoire, de nous sensibiliser aussi justement à ce que les donneuses font pour assouvir les rêves de certaines d'entre nous. Et puis, je te souhaite une très bonne continuation aux États-Unis avec ta grande famille. À bientôt.
Merci. Et merci à toi de m'avoir accueillie.
Et voilà, c'est la fin de ce nouvel épisode de Alors c'est pour bientôt le podcast. J'espère qu'il vous a plu. En attendant, si vous souhaitez plus d'informations sur le podcast et mes invités, direction le compte Instagram Alors c'est pour bientôt podcast ou sur le site internet alorscestpourbientotpodcast.com. Si cet épisode vous a plu, rendez-vous sur Apple Podcast pour me le dire avec plein d'étoiles et un commentaire. C'est le meilleur moyen de m'aider et de permettre au podcast de trouver d'autres auditeurs que le podcast pourrait intéresser. Si vous souhaitez témoigner, n'hésitez pas à m'écrire directement sur Instagram. En attendant, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à mercredi.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.